Des poches sous les yeux, l'émission.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Des poches sous les yeux, l'émission en direct sur les ondes de Radio Béton 93.6. Une fois n'est pas coutume, nous réalisons cette émission en direct depuis nos studios de Radio Béton, avenue Maginot à Tours. Oui, on n'a pas eu l'accréditation pour être à la place Saint-Pierre de Rome, donc il a fallu donc se rabattre. Mais voilà, notre chère radio n'a rien à envier hein, au lieu de la culture et du culte d'ailleurs, qui d'habitude nous accueille. Pour autant, nous n'allons pas passer une heure à nous regarder le nombril. Oh que non, Des poches sous les yeux. L'émission a choisi encore une fois de partir à la rencontre de personnes qui font la richesse culturelle de notre chère cité. Et cette semaine, nous rencontrons l'association Tourangelle. Samedi, on lit. Alors, je suis sûr que certaines auditeuristes profitent de la journée pour se faire un samedi au lit, harassés qu'ils sont par une semaine de labeur payée pot de balle, alors que, je vous le dis, sortez de votre pieu, allez vite vous prendre une douche et vous lavez les esgourdes bien profond, car il s'agit bien de l'association Samedi, on lit que l'on reçoit et pas Samedi au lit. Le jour où l'on recevra l'association Samedi, on lit au lit, vous pourrez rester couché, mais pas aujourd'hui. Allez vite, on se lève tous pour Samedi, on lit, d'autant plus qu'en ce samedi, figurez-vous, vous savez ce que je suis en train de faire moi ? Eh ben, je suis en train de lire mon papier. Et alors forcément, je me dis, ne serais-je pas en train de faire une mise en abîme en recevant samedi au lit ? Eh ben, c'est en recevant Valérie Costéjean à l'origine de ce projet associatif et Thomas Sénidre, actuel coprésident de Samedi on lit, que nous allons essayer de répondre à cette vaste énigme. J'arrête de lire mon papier donc, et nous allons vous écouter pour nous parler finalement de cette association, une association de quartier. Car vous jouez à domicile. Est-ce que Valérie, tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce projet associatif ?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, c'était en 2003. Nous étions quelques représentantes de parents d'élèves de l'école Saint-Exupéry. Et l'association Livre Passerelle nous a invités à venir participer avec les enseignants de l'école de l'époque à une journée de formation à la lecture à voix haute. Et on s'est prise au jeu. Et comme à cette époque-là, il y avait école le samedi matin et que la BCD, la bibliothèque de l'école, était inoccupée faute de moyens déjà à l'époque, et ben les enseignants nous ont demandé si on voulait bien le samedi matin venir lire des histoires et nous occuper de la BCD pour les enfants.
Vous parents d'élèves ?
Nous, parents d'élèves, oui. Donc, on a vraiment, c'était que du bonheur. Donc, on lisait dans la BCD le matin aux enfants des classes qui venaient les uns après les autres nous écouter lire. On ouvrait la porte de la BCD sur l'extérieur à 11h avant la sortie de l'école et les parents venaient avec leurs enfants avant la sortie de l'école pour emprunter des livres. Et voilà, donc c'était vraiment chouette. Et ça a eu tellement de succès qu'on a été même obligés de créer une association. Donc en 2006, on a créé une association officielle qui s'appelle donc Samedi on lit et qui vit toujours depuis.
Et donc le projet de cette association se restreint à l'école, au groupe scolaire Saint-Exupéry.
Alors au départ, notre idée, c'était sur le groupe scolaire, donc primaire Saint-Exupéry et maternelle Croix-Pasquier, mais aussi d'ouvrir la lecture sur le quartier, d'ouvrir l'école sur le quartier pour permettre aux parents, aux habitants du quartier de venir découvrir la lecture avec nous. Donc petit à petit, on s'est inscrit dans le paysage et avec Gentiana, on a participé à des événements locaux, donc au Livre Citadin, ensuite au Printemps des Poètes. Et voilà, après, c'est une toute petite association. On n'est que, enfin, à l'époque, mais toujours, Thomas pourra en parler, que des parents très actifs. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de préparation. Donc, on essaye de faire peu, mais bien.
Et quel écho vous avez eu auprès de l'école qui fait que plus de 10 ans après, 15 ans après, ça continue à fonctionner ?
Ben, les enseignants étaient déjà enthousiastes qu'on s'occupe de cette BCD qui était un peu moribonde. On avait parmi nous une maman qui était documentaliste. Donc, on a... refait les petites étiquettes, enfin voilà. Et puis les parents ont toujours été là. À l'école maternelle, on faisait une lecture une fois par an, un petit peu avant Noël, le soir après l'école. Alors on faisait un peu de mise en scène. On avait des papas hyper créatifs, je pense à un certain Olivier qui nous faisait des décors de dingue. Et du coup, les parents revenaient après l'école à 18h pour assister à ces temps de lecture. Et on avait jusqu'à 100 parents d'élèves qui venaient après l'école, à la maternelle, C'est génial et ça dure toujours. Et voilà, les parents sont OK pour venir écouter de la lecture.
Okay. Et il s'agit aussi d'apprendre aux parents à lire à voix haute.
Notre idée, c'était de ne pas faire peur aux parents, de se dire que dans les familles, quel que soit l'horizon des familles, beaucoup de mamans et de papas lisent à leurs enfants et de leur dire bah, « c'est chouette, on peut lire, même un tout petit peu, même un petit livre pour enfants ». Voilà, n'importe lequel. Donc, on n'a jamais voulu mettre de choses trop compliquées pour que tout le monde se sente à l'aise et dire à tout le monde, bah, venez nous rejoindre ou en tout cas, faites-le chez vous. C'est chouette et ça marche bien.
Merci Valérie. Je me tourne vers Thomas. Thomas Sénit, tu es le coprésident de cette association aujourd'hui. Oui. Donc, tu as repris le relais de Valérie notamment.
Oui, et même si pourtant je ne suis pas présent dans l'association depuis très longtemps, ça fait 3 ans, mais les filles qui étaient présidentes à l'époque... voulait passer la main, donc on a changé ça l'année dernière.
D'accord. Et donc, tu as, j'irais, fait évoluer l'association ou tu es resté dans le même cadre d'exercice ?
Non, on est resté vraiment dans le même cadre. Alors, c'est le cadre récent avec l'événement à la maternelle dont parlait Valérie et un événement, principalement ça s'axe autour de ces deux événements-là, un à la maternelle et un qui se déroule au moment du livre citadin qui est à l'école primaire. Et on participe toujours au printemps des poètes et voilà, mais on essaye de continuer à faire fonctionner l'association pour faire venir les gens. À la maternelle, ça marche toujours vraiment super bien. C'est un moment où on appelle ça soupe et compte. Et donc, il y a un entracte où les maîtresses, elles ont préparé des soupes. Et donc, l'entracte, bah, ça permet aux parents et aux enfants de manger un petit peu. Et puis, après, de revenir dans une autre salle parce que chaque salle a des lectures spécifiques. Donc, c'est vraiment un événement qui marche vraiment super bien. Et on a toujours autant de parents. On a entre 200 et 250 personnes à chaque fois à la maternelle. C'est vraiment sympa.
Et donc, c'est exclusivement les parents d'élèves de l'école ou il y a une ouverture vers le quartier sans que les parents aient forcément scolarisé leur enfant à Saint-Exupéry ?
Alors, c'est quand même globalement les parents d'élèves. C'est pas complètement fermé, mais comme ça, la communication, elle marche surtout interne à l'école, en fait. Donc, c'est principalement les parents d'élèves, mais bon, ça concerne quand même beaucoup le quartier parce que c'est quand même une école qui est très présente.
Est-ce que tu es au courant d'initiatives du même ordre qui existent dans d'autres groupes scolaires de la métropole ou tu penses que c'est une initiative assez finalement locale et exclusive au quartier ?
Alors, je ne suis pas au courant.
Moi, je pense qu'on n'est pas nombreux dans les écoles à faire ce genre de choses. Enfin, moi, les retours que j'en avais... les représentants de parents d'élèves, on nous disait souvent le grand étonnement de que des parents puissent porter ça depuis si longtemps, contre vents et marées, hein, parce que les enseignants n'ont pas toujours été hyper emballés que des parents s'immiscent comme ça dans la lecture. Ça dépendait des enseignants, ça dépendait des directeurs et directrices d'école, ça... le printemps des poètes nous a toujours soutenus aussi, et puis Gentiana nous a aussi beaucoup soutenus. Mais je pense que c'est une initiative un peu rare dans les écoles. Ouais.
Et vos choix de lecture peuvent-ils être finalement un sujet de discorde, soit vis-à-vis de parents, soit vis-à-vis d'enseignants ?
Non, on n'a pas eu de...
Alors, récemment, ouais. En tout cas, nous, on n'a pas eu ce sujet-là du tout. Après, on essaie de trouver un sujet qui à la fois nous fait plaisir à nous, parce qu'il faut qu'on soit motivé, enfin, faut que les gens de l'association qui participent soient motivés, et puis qu'on trouve quelque chose qui puisse parler aux enfants aussi, en fonction de la tranche d'âge. Donc, cette année, par exemple, le thème pour la maternelle, c'était les bêtises. Voilà. Donc, le choix des lectures, c'était autour des bêtises. Alors, malheureusement, moi, cette année, j'ai eu un problème, j'ai pas pu participer à l'événement à la maternelle, mais je sais qu'il s'est très bien passé et que tout le monde était très content, mais voilà, en tout cas.
Il y a beaucoup de choix d'albums en jeunesse, des choses classiques connues de tous, et puis on essayait aussi d'aller creuser à la médiathèque, de se faire plaisir, mais non, on n'a jamais eu de sujet. L'idée, c'est de faire quand même que les gens prennent du plaisir et que les autres parents, vraiment, c'était l'idée, ça, que les autres parents se disent, on peut tous le faire, on peut tous lire à nos enfants, donc... On a toujours veillé à faire des choses intéressantes, mais consensuelles, on peut dire ça.
Ouais. Et donc, j'imagine que pour vos propres enfants, qui bénéficient sans doute de votre engagement par là même, parce que pendant de longues années, vous avez dû leur lire de magnifiques histoires, qu'est-ce que vous sentez de l'impact de votre action sur les jeunes du groupe scolaire ? Ou est-ce que vous arrivez à mesurer finalement ou à apprécier la façon dont ça résonne.
Je ne sais pas si comment on peut le mesurer. Moi, j'ai deux enfants. J'en ai un qui lit un peu et une qui lit pas du tout. Alors qu'il y a toujours eu plein de divas à la maison, qui sont toujours venus avec moi sur les temps de lecture. Et je pense que ça transmet des valeurs aussi. Ce n'est pas pour ça que ça en fait des lecteurs, mais ça en fait des enfants ouverts sur le monde, ouverts sur les autres. Ça transmet du vocabulaire, ça transmet des mots, ça transmet l'appétence pour parler, échanger. Donc pas forcément des grands lecteurs, en tout cas moi, hélas, non. Mais en tout cas, des enfants ouverts, c'est déjà pas mal.
C'est déjà ça.
Et ce qu'on peut voir quand même, par contre, c'est l'enthousiasme des enfants, notamment à la maternelle, parce que les enfants emmènent les parents. Moi, mes enfants, donc j'ai été spectateur de Samedi en lit avant d'être participant, et mes enfants, il fallait surtout pas rater la soirée. Donc quand ils étaient à la maternelle, fallait y aller. Et même mon plus grand, une fois qu'il était passé à l'école primaire, il voulait absolument venir à la session à la maternelle. Donc on n'a pas beaucoup d'autres mesures que ça, mais c'est, par contre, on voit bien que les enfants sont hyper réceptifs. Et donc après, quel impact sur leur pratique de la lecture, ça c'est bon, un peu trop compliqué pour s'engager.
Oui, et puis on n'est pas là pour être dans l'efficience.
Non,
à
c'est
tout
ça.
Train.
Non, pas la mesure.
Ok, laissons la macromanie. Pour plus tard. On a coutume de vous proposer de nous parler d'un livre qui vous a plu. Alors, Thomas, tu vas passer ton tour, si j'ai bien compris. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'il paraît que Valérie a quelque chose sous le coude à nous proposer.
Alors, Valérie, du coup, elle ne va pas vous parler d'un album jeunesse, mais je vais profiter que j'ai l'antenne pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et le livre dont je voudrais parler, c'est « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, qui est un livre référence du féminisme. Il y a déjà 100 ans, elle disait « Si un jour... les femmes avaient une pièce à elles et un petit peu d'argent, elles pourraient être libérées. On espère que ça arrivera.
Magnifique. Merci donc Valérie Costeja et Thomas Sénidre pour l'association Samedi on lit. Merci pour votre engagement et pour tout le plaisir que vous procurez aux plus jeunes enfants.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Alors, on enchaîne avec une tranche d'anniversaire proposée par Fab Caro et interprétée par Pascal et Daniel.
Alors voyons un peu la liste des invités pour ton anniversaire, ma chérie. C'est embêtant, il n'y a aucun étranger dans ta liste.
Bah, j'en connais pas.
Bah oui, mais du coup, ça va manquer de minorité.
Bah ouais, les voisins vont jaser.
Ce Mehdi-là, il serait pas un peu maghrébin, par exemple?
Non, il est français. Il est un peu efféminé, tout le monde l'appelle le gros PD.
Et bah voilà!
C'est parfait, ça!
Aïe, aïe, aïe. On va faire une première pause musicale et écouter les roucoulades nostalgiques de Coco Rosy qui seront aux surprises sur la scène du Grand Chape d'Ocquart de Tours jeudi 12 juin et vous propose de siroter leur Lemonade.
Dream. And God's love in Father's sea. these butterflies. We seven kids, we almost died, nearly put to death. Boy,
oui, la limonade de Coco Rosy. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, hein, en tout cas. De retour sur les ondes de Radio Béton 93.6, c'est Malo qui ouvre le bal des chroniqueurs et chroniqueuses ce mois-ci avec un frisson sulfureux. On est loin de la marchande d'allumettes d'Andersen, ceci dit.
C'est à peu près ça, ouais. Dites trois fois son nom et priez pour rester en vie. Tiens donc, voilà un roman qui aurait pu sortir de la plume de Stephen King, non ? Appeler une entité et craindre pour sa vie, ça ressemble fort au roman qu'on lisait à la grande époque du Stephen King, non ?
Absolument.
En fait, l'histoire se passe aujourd'hui. Elle même traverse les réseaux sociaux et devient un challenge sur TikTok. Fais un personnage en allumettes, 5 allumettes, et fais cramer une autre allumette jusqu'au bout, sans te brûler les doigts. Et appelle l'homme allumette 3 fois de suite, et tu verras ce qui arrivera. Et bien voilà, 3 jeunes finissent égorgés dans un parc parisien après avoir fait ce challenge. En même temps, une youtubeuse spécialisée dans les histoires macabres fait des nouvelles publications mais commence à perdre des abonnés. Il faut qu'elle trouve un nouveau filon. Et bientôt, elle reçoit des messages de ses abonnés qui lui demandent de traiter les sujets de l'homme allumette. Bon, si on s'arrête à ça, rien d'extraordinaire, non ?
Sauf que tu vas nous dire autre chose, Malo, non ?
Et pourtant, on s'accroche très rapidement à l'histoire. D'autant plus que quand de nouveaux meurtres liés à l'homme allumette arrivent, dont un particulièrement bizarre, deux filles sont égorgées en pratiquant le challenge dans un téléphérique à Toulouse. Rien sur les vidéos de la station. Par contre, le meurtre, lui, est filmé et diffusé quasi en direct sur YouTube. Criminel ou surnaturel ? En tout cas, un inspecteur écrivain de romans policiers pendant ses loisirs n'y croit pas et se lance dans l'enquête avec son équipe. Quel rapport entre les crimes de Paris, Toulouse et bientôt d'autres villes ? La youtubeuse et la fête foraine ou la diseuse d'aventure à 11 ans ?
Oh là là.
Ça tombe bien parce que la fête foraine vient de démarrer à Tours.
Oui, accrocher la queue du Mickey.
Exactement. L'enquête est compliquée, ne serait-ce que par la nature des crimes, filmés ou diffusés sur le net, alors que tout le monde commence à pratiquer le challenge et que les rumeurs enflent sur le caractère surnaturel et sont dans toutes les têtes. Sauf pour notre inspecteur écrivain qui, lui, ne s'en laisse pas compter. Mais bientôt, l'enquête s'enlise dans des directions qui mènent à des impasses. Est-ce qu'il va réussir à résoudre ce mystère ? Ah, pour cela, il faudra lire le livre. En tout cas, une fois démarré, le livre ne se laisse pas lâcher et on avance avec l'enquête. On tient le livre jusqu'à la fin, il va falloir s'accrocher pour résoudre le mystère. Il y a beaucoup de secrets dans ces histoires, que ce soit cette youtubeuse ou la chiromancienne de la foire, mais aussi le chef de la foire qui est le père de cette gamine de 11 ans qui lit l'avenir. Beaucoup de mystères que doivent être levés pour comprendre ce qui se passe. Et pendant ce temps, les gamins continuent le challenge en ayant peur de se faire tuer. C'est un très bon roman policier que nous offre Nicolas Druard. Le livre est un beau roman de presque 400 pages qui se lit d'une traite. Quel rapport entre Aurore, la youtubeuse, et Antoine le policier ? Mais qui est ce Nicolas Druard ? Tu connais ?
Non.
C'est pas son premier roman que celui-ci. Souffre, en effet, il en est à son 6e roman. C'est un ancien infirmier du CHU de Toulouse qui a profité d'un arrêt maladie pour se lancer dans l'écriture.
Ouais.
Et il a bien fait.
Il a spéculé du travail, moi.
Souffre de Nicolas Druard, édité chez HarperCollins, Noir est un très bon roman pour lequel il va falloir s'accrocher. Son credo à lui, c'est le thriller psychologique. Allez-y, je vous le conseille.
Merci, merci Malo. On enchaîne avec Nadia qui nous emmène au Vietnam.
Voilà, avec un titre complètement éblouissant, ça s'appelle « Là où fleurissent les cendres de la vietnamienne Nguyen Phan Ke Me ».
Je suis ébloui.
Bon, je ne vous garantis pas la prononciation, mais vous l'avez deviné. Et c'est édité chez Point. Alors, a priori, le titre de ce roman n'avait rien pour m'inviter à la lecture. Mais en ayant voyagé au Vietnam récemment, la silhouette portant le chapeau traditionnel de ce pays qui illustre la jaquette du livre m'a incité à m'y intéresser. Et puis en consultant les notes de l'autrice, je lis que ce roman s'appuie sur le travail de doctorat réalisé par l'autrice au sujet des Amérindiens, c'est-à-dire les enfants de GI américains et des jeunes vietnamiennes nées pendant la guerre. Le récit s'articule à partir du parcours d'un Amérindien et de la quête d'un couple d'Américains. Phong est un Vietnamien noir d'1m80. Son physique trahit ses origines, c'est un enfant de l'ennemi. Il a d'abord vécu dans un orphelinat, puis dans un camp de rééducation jusqu'à ses 17 ans. Juste après la guerre, les Amérindiens pouvaient bénéficier d'un visa pour les USA. Alors une famille s'est fait passer pour sienne pour tirer parti de ce statut dans le but de pouvoir fuir le Viet Cong. Mais l'opération a échoué. En 2016, Fong est marié, père de famille, et sa demande de visa est de nouveau déboutée. Il doit retrouver son père et fournir un test ADN pour obtenir son laissez-passer. De leur côté, Dan et sa femme viennent d'arriver au Vietnam. C'est Linda qui a pris l'initiative de ce voyage sur les conseils de la thérapeute qui accompagne Dan. À 70 ans, Dan n'en finit pas de revivre sa guerre au Vietnam. Pour lui, c'est un retour au pays de la peur, mais pas seulement. Il n'a rien dit à Linda de sa relation à Kim et de l'enfant né de cette liaison. Il est temps pour lui d'assumer les conséquences de ses actes. Chercher dans les rues de Saïgon les traces de la jeunesse des personnages permet à l'autrice de raconter l'histoire de ces jeunes gens, tant celle des GI, qui étaient que des gamins, que des filles de paysans qui voulaient échapper à la misère en distrayant les soldats dans les bars. De nombreux enfants sont nés de ces rencontres. Le sort réservé à ces enfants et leurs familles est assez effroyable. Outre le traumatisme de la guerre, le traumatisme de l'abandon, s'ajoute la réprobation sociale liée à leur origine, à l'activité de leur mère, à la trahison. Des vétérans américains viennent au Vietnam dans l'optique de réparation et financent des associations pour retrouver leurs enfants. Des détectives se sont aussi spécialisés dans cette quête. Les personnages de ce roman illustrent les traumatismes des uns et des autres et comment chacun a composé avec cette histoire. La culture donne un tour particulier à leur façon d'appréhender cette situation. Alors moi, j'ai trouvé que le récit était souvent dégoulinant de bons sentiments, mais peut-être que cet excès a une fonction, celle de travestir l'ineffable de la souffrance. Ce roman est très documenté, riche d'enseignements sur l'histoire du Vietnam et d'une entrée sur ce conflit très différent de celle proposée par l'abondante filmographie américaine. Ça s'appelle « Là où fleurissent les cendres » de Nguyen Phan Kemet chez Point. Et j'ajoute que la guerre du Vietnam, la fin de ce conflit, c'est son anniversaire, puisque ça fait 50 ans, et Arte propose une rétrospective de ces événements.
Merci Nadia pour ce complément. Comme vous le savez, le pape est mort.
Ah bon ?
Un nouveau pape est appelé Araignée. Araignée, quel drôle de nom pour un pape. Et pourquoi pas Motherfucker ou Bastard ? Voyons ce qu'en dit Daniel.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Waouh, pour une fois que je suis dans l'actualité, j'en profite. La musique, c'est pour l'ambiance, hein, quand même. J'en profite, même si c'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Ça s'appelle, c'est une bande dessinée en deux volumes, finie. C'est pour nous dire que l'éditeur a bien conscience que les séries qui traînent en 12 volumes et qui coûtent un SMIC et qui nous perdent à tel point qu'à chaque sortie, je dois me farder les 11 volumes précédents pour bien comprendre, eh bien, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Hein. Et je balance, hein. La série Les Vieux Fourneaux, c'était bien au début, mais je crois qu'on a bien compris le principe maintenant et qu'on a eu le droit à une adaptation au cinéma plutôt ratée. Bon, je reviens à la papauté. Mais pourquoi il ne vous a pas échappé, même chez les auditrices et les auditeurs de Radio Béton, que le pape a rendu sa mitre et sa crosse magique? Oui, parce que le titre de cette courte série de bandes dessinées, je vous le donne en mille, c'est « Habemus Bastard ». Je vous le traduis pas, mais à l'heure des conclaves en tout genre, on est bien raccord, même si ça s'arrête là. Ça sonne un peu comme un jeu de mots du poulpe. Le poulpe, cette série de polars, là, avec des jeux de mots aléatoires, la petite écuyère à café ou la poubelle pour aller danser. Ça, c'est la marque du polar, et cette bande dessinée en est un polar. Le scénario, le script, l'histoire, enfin appelez ça comme vous voulez, ça tient en quelques lignes. Lucien, tueur de son état, de profession même je pense, va trouver un homme accompagné d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel, pour une raison qu'on ignore. Pour le plus grand des hasards, l'homme, nous l'appellerons Jean-Pierre, glisse malencontreusement du 4e étage de l'hôtel, fin de l'épisode de vie pour Jean-Pierre. Lucien, vous suivez j'espère, qu'on devine être sur la fuite, en cavale, trouve dans la chambre d'hôtel des habits sacerdotaux neufs, sans étiquette. Ça, c'est une spéciale dédicace à mes amis de Vinted. Ainsi qu'un document l'invitant à intégrer la paroisse de Saint-Claude, capitale de la pipe. Et là commence la méprise, le quiproquo. Rien de révolutionnaire, mais toujours efficace. Lucien devient prêtre et se retrouve à assumer un rôle qu'il maîtrise beaucoup moins que le nettoyage de son beretta. Lucien va insuffler un vent de nouveauté dans son ministère, que ce soit dans ses homélies peu orthodoxes, son rapport intime avec certaines paroissiennes, très intime, dans la mise en place d'un petit business de deal avec un jeune catéchumène. Et en parallèle, vous pensez bien qu'il y a des méchants loups qui le recherchent, Lucien, avec ardeur, et les fils de l'intrigue vont se resserrer pour un bouquet final du deuxième tome, plutôt raccord. Alors, ça sonne comme un polar à l'ancienne, le malfrat au grand cœur quand même, tous les poncifs d'un autre temps, mais bon, ça passe. Du côté auteur, on a du lourd. Sylvain Vallée, qui nous avait déjà régalé avec Katanga et Tananarive, et Jackie Schwartzman, je ne connais pas, mais c'est un auteur du seuil. Graphiquement, ligne claire et style soigné, dans la même veine que la série Il faut flinguer Ramirez. Bref, un ensemble stylé pour passer un très bon moment sans se prendre la tête. À la manière d'une série Z revisitée, vous passerez un bon moment, promis. Bon, c'est pas la révolution du siècle, c'est mais quand même, ça le fait. Alors, ça s'appelle Abemus Bastard, c'est paru aux éditions Dargo par Jackie Schwartzman et Sylvain Vallée. 2 volumes, et ça va, c'est pas très très cher.
Nouvelle pause musicale dans Des poches sous les yeux, l'émission à nouveau pour vous permettre de découvrir une toute petite partie de la très riche programmation du prochain festival Au Quart de Tour. On vous propose cette fois-ci une locale de l'étape qui sera sur scène, sur la scène du Petit Chap le 12 juin. C'est Jane et les autres qui est bien dans le thème d'Ocar avec son titre Les grands travaux en featuring avec Adiviti.
La course dans un long couloir, derrière moi tout s'effondre. J'ai perdu des frères et quelques illusions. J'ai fini par me taire, j'ai vidé mon verre. Avec ou sans moi, les étoiles brilleront de toute façon. Mais c'est pas ma haine qui t'emmènera en prison. Alors que sur moi, elle agit comme un poison. De trahison, trahison. Je la connais par cœur, j'écris des chansons. Tout recousu solo encore une fois. Je t'aime à la mort mais j'ai plus besoin de toi. Cette fois je crois bien que j'ai retenu la leçon. J'ai tant la rage de vivre, je leur ai donné des soupçons. Je vois du rouge et du violet. Je pense au billet, je pense à briller. Maman faut pas briller. Non je peux pas rien. Je le rappelle quand j'aurai fait. Je le rappelle quand j'aurai enfin les moyens de guérir. Je vois du rouge et du violet. Je pense au billet. Mais pour sortir de la galère, je n'ai pensé qu'à moi, je n'ai pensé qu'à ma gueule. Quand j'ai pensé comme toi, je n'ai pensé qu'à ma gueule. Si c'est la fin de l'hiver, pourquoi j'ai toujours si froid? Fuck, j'ouvre les yeux, la porte était grande ouverte. Bien que j'ai retenu la leçon, j'ai tant la rage de vivre, je leur ai donné des soupçons. Je vois du rouge et du violet. Je pense au billet, je pense à briller. Maman, faut pas briller. Non, je peux pas rien. Je le rappelle quand je l'aurai fait. Je le rappelle quand j'aurai enfin les moyens de guérir. Je vois du rouge et du violet. Je pense au billet, je pense à briller. Maman, faut pas briller. Non, faut pas rien. Je te rappelle quand je l'aurai fait.
De retour en direct sur les ondes de Radio Béton 93.6, c'est Des poches sous les yeux, l'émission. Et c'est au tour d'Olivier de poursuivre son œuvre de déconstruction.
Très bien. Alors vous connaissez certainement la phrase d'Andy Warhol, « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale ». On peut se demander si ce n'est pas pour en vérifier la pertinence que le 3 juin 1968, sur les coups de 16h30, l'écrivaine Valérie Solanas est montée au 6e étage du Decker Building, dans le quartier de Manhattan, où le même Warhol avait installé son atelier, la fameuse Factory. Et là, sans trop prendre la peine de lui dire ni bonjour ni merde, boum, elle lui tire dans la paillasse une balle de pistolet qui lui transperce la boudine avant de lui ressortir par le haut du thorax. Alors le pape du pop art en conçut, paraît-il, un certain dépit qui l'incita à se faire évacuer promptement vers l'hosto le plus proche, où il fut un moment déclaré mort jusqu'à ce qu'un vigoureux massage cardiaque ne lui fasse reprendre du poil de la bête. Pendant ce temps-là, Valérie Solanas se présentait au commissariat pour y confesser son forfait, qu'elle justifia par le fait que Warhol avait, selon elle, trop de contrôle sur sa vie. Quel contrôle exactement ? C'est difficile à établir avec précision, mais cependant plutôt aisé à deviner. Née en 1936 dans le New Jersey, Valérie Solanas fait très tôt preuve d'un tempérament farouchement rebelle et volontiers castagneur auquel se mêle une créativité notable qui l'amène, par exemple, à recopier des insultes de son cru sur des petits bouts de papier qu'elle revend 10 cents à ses petits camarades d'école élémentaire, ce qui révèle, convenons-en, une précoce vocation littéraire. Lassée de son comportement, sa mère l'expédie chez ses grands-parents où, après avoir été violée enfant par son père, elle subit cette fois-ci les violences d'un grand-père alcoolique avant de décider à 15 ans de foutre le camp. Arrivée à New York au milieu des années 60, elle vit de mendicité et de prostitution tout en écrivant quantité de textes dont une pièce de théâtre, Up Your Ass, que l'on pourrait traduire par « Dans ton cul », mettant en scène une mendiante prostituée qui hait les hommes à tel point qu'elle finit par en tuer un de ses propres mains. Lorsqu'elle rencontre Andy Warhol en 1967, c'est cette pièce qu'elle lui propose de produire. Bien qu'il lui promette de la lire, quand Valérie Solanas lui demande quelques temps après ce qu'il en a pensé, il lui répond que pas de bol, c'est trop bête, mais du diable s'il se souvient où il a bien pu ranger l'unique exemplaire existant du tapuscrit. Et en compensation, grand seigneur, il lui propose la somme rondelette de $25 et un rôle miteux dans un film mollement porno qu'il s'apprête à tourner. C'est peut-être ce manque de considération attisé par l'accumulation de maltraitances et d'injustices qui a poussé Valérie Solanas à tenter d'oxyre Warhol. À moins que son intention ne fût de commencer à mettre en pratique l'ambitieux programme de transformation sociale qu'elle avait élaboré en 1967 dans ce texte intitulé « Scum Manifesto ». Sous prétexte qu'il appelle ouvertement à la rébellion des femmes et à l'éradication des hommes, Scum Manifesto est souvent présenté comme un pamphlet misandre, révélateur de la paranoïa d'une féministe radicale à l'esprit détraqué. Bon, il se trouve que Valérie Solanas a été diagnostiquée schizophrène, ce qui lui valut d'être envoyée en HP pendant quelques années après sa séance de tir au connard. Et c'est vrai que c'est toujours pratique, quand quelqu'un dit quelque chose qui dérange quelque peu l'ordre établi, de laisser entendre que c'est un zinzin, un dingo, un cinglé, un maboule, ou si... En plus, c'est une femme, une hystérique. Ça évite de s'attarder sur le fond du propos pour se contenter d'enrailler la forme. Michel Houellebecq, qui n'est pas, il est vrai, un modèle de déconstruction, illustre assez bien ce type de posture dans la postface de l'édition de 2005 de Scum Manifesto qui débute par ces mots. Je cite Michel Houellebecq. « Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité. » Avant de poursuivre, tout du long sur un insupportable ton ironique, laissant entendre que la prose de Solanas n'est rien d'autre qu'un négligeable délire puéril. Le fait est que Scum Manifesto est un texte dont la brutalité immédiate peut dérouter le lecteur qui n'y est pas préparé et lui laisser penser, ou le pousser à préférer penser, qu'il s'agit d'une œuvre parodique et potache. Une fois qu'on a dépassé le rire nerveux, puis gêné, puis jaune, il est pourtant possible de voir dans le style de Solanas qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne brosse pas trop les roubignoles de ses lecteurs dans le sens du poil, une verve politique aussi percutante qu'efficace et, disons-le, salutaire. Rien, humainement, ne justifie l'argent ni le travail pour quiconque, au-delà de 2 ou 3 heures par semaine, au maximum. Fichtre, me diras-tu. C'est du Proudhon ou quoi ? Non, c'est du Valérie Solanas. Il n'y a aucune raison pour qu'une société composée d'individus rationnels et capables de se comprendre les uns les autres, complets en eux-mêmes et n'étant pas enclins naturellement à entrer en compétition les uns avec les autres, ait besoin d'un gouvernement, de lois ou de chefs. Ça alors, c'est du Emma Goldman, hein ? Non, encore du Valérie Solanas. Aucune véritable révolution sociale ne peut être réalisée par les hommes car ceux qui sont en haut de l'échelle veulent y rester et ceux qui sont en bas n'ont qu'une idée, c'est d'être en haut. Du Michel Bakounine peut-être ? Eh bien non, toujours du Valérie Solanas. Scum Manifesto est profondément, radicalement, purement et sincèrement anarchiste. Ce n'est pas seulement le cri déchirant d'une écrivaine excédée par la médiocrité d'une société tout entière construite sur des principes de soumission et de compétition dont le patriarcat est la manifestation emblématique et les femmes les proies privilégiées, mais aussi et surtout un appel à résister à tous les dictats, à toutes les injonctions, à toutes les oppressions. Lisez-en quelques pages chaque jour, ça devrait vous couper l'envie, si toutefois elle vous avait traversé l'esprit, de vous asseoir les jambes largement écartées dans le métro, d'acheter un nouveau 4x4 encore plus gros que le précédent, ou d'envahir la Crimée en passant par la bande de Gaza. Scum Manifesto de Valérie Solanas est édité par Fayard dans la collection 1001 nuits.
Bravo Olivier, merci beaucoup pour cet éclairage sur Scum Manifesto. On va poursuivre notre promenade culturelle au XXe siècle. Et c'est l'heure de l'interview de Pascal.
Yes, aujourd'hui on reçoit Marsu, bonjour.
Bonjour.
Alors Marsu, hein, l'ex-manager des Bérus, Bondage Records,
mes genoux.
Crash Disc, hein, ça vous parle? Bah, une longue histoire avec Radio Béton et le Festival Ocar, hein, mais aujourd'hui on te reçoit Marsu pour le livre Indocile de François Poulain, paru hier ou ce matin, enfin en tout cas
Il est paru en décembre parce qu'il y a eu un système de crowdfunding.
Oui.
Sinon, le bouquin n'aurait pas pu voir le jour. Et du coup, il a été disponible pour les gens qui avaient souscrit dès décembre. Ensuite, je pense qu'il était disponible en VPC dès le début de l'année. Et là, maintenant, il est en
librairie depuis hier.
Voilà. Ils ont fait ça graduellement.
Donc,
c'est un plan marketing.
Voilà. Mais paru, tout à fait. Stratégie, en fait.
Aux archives de la zone mondiale. Alors,
qui est un label de disques à la base.
Voilà. C'est un book photo de François Poulain dont tu as fait la préface.
Exactement, c'est pour ça que je suis là, parce que voilà. Sinon en fait, 4 pages dans un bouquin de 324, si tu veux, bon, ça fait un peu léger.
Fais-nous un petit peu le pitch de ce bouquin Indocile.
Alors, déjà, qui est François Poulain? C'est un photographe qui a été très très présent à la fin des années 80 et dans les années 90 sur la scène principalement parisienne, enfin, pas, quand je dis Paris, c'est plutôt banlieue, à travers deux endroits qui étaient emblématiques, qui sont d'une part Capsule Rock, qui était la MJC de Champs-sur-Marne, et d'autre part Fahrenheit, qui était, elle, la MJC de ici les Moulineaux. Donc deux endroits où il y a eu énormément de concerts, aussi bien de groupes étrangers que de groupes français. Au niveau du groupe français, ce qu'on peut définir déjà dans alternatif, entre guillemets, et post-alternatif, quoi. Et donc, il avait une quantité assez conséquente de photos depuis très longtemps. Déjà plusieurs parutions, en particulier un bouquin qui s'appelait « Scènes de rock en France », où en fait les photos étaient accompagnées de... Alors normalement, ça devait être juste un petit commentaire, et finalement, c'était des pages et des pages de présentation de toute une scène divisée en famille, en fait, couvrant schématiquement la fin des années 80.
Bouquin épuisé.
Le bouquin a non seulement été épuisé, mais en plus il a été foutu. Dans la mesure où les planches originales qui étaient chez un éditeur italien ont été zappées. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Ah. Et donc, impossible de rééditer la chose. Et donc, ça faisait un bout de temps que traînait dans l'air l'idée de refaire ce bouquin en le réactualisant. D'autant plus que Franpou, qui est un maniaque assez austère au niveau de la photographie, était un peu insatisfait des tirages. Donc l'idée, c'était de refaire quelque chose de meilleure qualité, plus grand, pareil, plus haut, plus fort, etc. Et puis, en revanche, lui, il ne sentait pas trop de faire encore un bouquin avec des quantités de texte, parce que déjà, ça aurait fait une pavasse de double taille. Donc déjà, là, ça pèse quand même un peu lourd. Donc il aurait fallu une brouette pour le trimballer. Et en plus, il aurait fallu que Maxwell, donc... qui avait fait tous les textes, se remettent à plancher. Et c'était quand même un énorme boulot, puisqu'il fallait tout retaper, il fallait remettre à jour. Bon, voilà. Donc l'idée, ça a été de faire un bouquin avant toute photo, parce que les photos, dans leur esthétique noir et blanc très contrastée, elles parlent d'eux-mêmes. Et que, bon, bah voilà, peut-être ça laisse un petit peu aux gens la capacité d'aller chercher au-delà de l'image, quelles sont les histoires qu'elles racontent.
Voilà. Alors, particularité, hein, donc c'est de l'argentique noir et blanc. Hein,
oui.
Un parti pris.
C'est
la marque de fabrique de François Poulain.
Tout à fait. Sa marque de fabrique, c'est donc effectivement de faire du noir et blanc, même s'il a fait un peu de couleur. Objectivement, quand tu es photographe de presse et que tu veux gagner un petit peu de sous, il y a un moment, tu es obligé de faire de la couleur, sinon ça passe pas dans les canards. Mais en tout cas, beaucoup de noir et blanc, et en plus, avec les de part et d'autre, c'est un truc qui lui est vraiment particulier, qui est le cadrage noir des photos. Et en fait, qui reproduit finalement le film avec son encadrement.
Et il dit qu'il ne recadre, pas ses photos au tirage. Quoi.
Exactement. Ça, c'est une base. De toute façon, c'est quand même quelqu'un qui est très rigoriste.
C'est non négociable.
Tout à fait. C'est ce qui est indiqué. De toute façon, je vois que tu as lu la chose.
Alors, on appelle ça une reliure suisse.
Hein. Ouais, c'est étonnant. Hein.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une reliure suisse?
Alors, l'idée,
explique-le aux auditeurs qui ne peuvent pas voir et toucher le bouquin, même s'il est disponible depuis aujourd'hui. Dans les librairies Tourangelle.
Exactement, bah, tu peux peut-être dire le nom des librairies.
Eh ben, on le trouve, moi j'ai trouvé au Temps Sauvage ce matin, mais il est aussi à la boîte à livres.
Et donc, l'art Lursus, une chose que je ne connaissais pas, enfin, j'en ai déjà vu, mais j'ignorais que ça s'appelait comme ça, c'est un truc qui aboutit à une chose, c'est que plein de gens croient qu'en fait, le bouquin est mal collé. Donc, ça fait un peu le bordel. Et il y a des gens qui sont un peu émus.
Rendez-nous notre argent.
Auprès de folklore de la zone mondiale, en disant, mais votre bouquin, il ne tient pas. Et même certains qui ont en collé
La tranche.
Et donc, ça, c'est l'erreur fatale. L'idée d'avoir cette reliure, c'est que ça permet, en fait, d'ouvrir en grand chaque page. Ah oui. Donc, quand il y a des doubles pages, c'est-à-dire des photos qui font les deux côtés, et ben en fait, elles sont raccord.
Et moi, j'ose, il n'y a pas de bande blanche au milieu. Ouvrir un livre comme ça. Alors que là, il ne faut pas hésiter.
Voilà. Et donc, dedans, il y a quand même beaucoup de matière. Et puis, aussi bien des groupes qui sont devenus un petit peu légendaires que même des groupes étrangers, ce qui n'était pas trop dans le cas pour Scène de Rock en France, donc le premier bouquin.
Et comme dirait Malo qui l'a feuilleté, hein, 95% des groupes qui sont en photo sont passés sur les scènes de béton ou de quart de tour.
Quelle surprise.
Donc, on est en plein dedans. Alors dans ta préface, tu parles de la difficile condition de vie des photographes.
Bah oui, bon, on peut généraliser ça maintenant aux musicos, aux graphistes en tout genre, aux gens qui font de la BD. C'est-à-dire que dans la photographie de presse, il n'y a jamais eu beaucoup d'argent à gagner, de toute façon, ça c'est clair. Et même si, disons, au début des années 90, il y a eu une sorte de boom des journaux de rock qui ont permis à quelques photographes de placer quelques photos, malgré tout, c'était pas, ça n'a jamais été une panacée terrible, quoi. Donc la plupart de ceux que j'ai connus qui étaient, je vais pas dire compétents parce qu'il n'y a pas que qu'ils étaient, mais disons qui suivaient en tout cas les groupes qui nous intéressaient. De temps en temps, ils ont placé quelques photos dans la presse, très mal payées. Et puis, d'autres fois, ils ont fait des photos de presse à destination des labels ou directement des groupes. Mais c'est pas ça qui fait vivre un photographe, clairement, quoi. Et il y a quand même un paquet de gens que je connais qui ont des photothèques impressionnantes. Et ça mérite d'être édité, ça mérite d'apparaître au grand jour, parce que je vois pas pourquoi à chaque fois on nous ferait des kilomètres sur les grands artistes étrangers qui ont pris toutes les célébrités, alors qu'on a déjà ici beaucoup de gens qui ont des compétences dans le domaine. D'ailleurs, j'ai un peu pressé Parias, et voilà, Parias c'est le boss d'archives de la zone mondiale, donc qui est le label qui a édité ce bouquin, après avoir édité aussi le bouquin de Roland Crowe et plusieurs autres. Et je lui ai dit qu'en fait, au-delà de faire des monographies sur certaines personnes, peut-être qu'il y aurait moyen de faire une sorte de compilation avec tous les photographes qu'on connaît, qui ont, à droite et à gauche, participé au grand kaléidoscope de l'imagerie rock des années 80 et jusqu'à maintenant d'ailleurs.
Il y avait un autre bouquin donc, de photos dont tu viens de parler, là, de Roland Crowe, qui s'appelait Pogo,
ouais,
dont tu faisais encore la préface. Et donc, je me suis demandé, mais ta nouvelle mission dans la vie, c'était préfaceur.
Et en fait, c'est pas la seule non plus. Enfin, c'est pas les seuls, il y en a eu d'autres. En fait, je suis un peu feignant.
Et quand est-ce que tu passes vraiment du côté de l'écriture? En fait, j'aurais sûrement quand est-ce que tu racontes tes mémoires?
Je suis un grand maniaque aussi, si tu veux. Et le problème, c'est que j'aime bien le côté digressif et puis imagé de certaines bios et certains bouquins. En même temps, il faut avoir un peu de sens. En ce moment, tout le monde sort des bouquins. Tous les copains ont un, deux, voire trois bouquins. Et après ça, tu te dis, mais où est la pertinence de tout ça pour ça? Et trois, à quoi bon? Il y a un moment où juste faut savoir un peu s'effacer derrière l'histoire. Et moi, ce qui me plairait plutôt, ce serait de participer à un collectif un peu là-dessus. Mais bon, en tout cas, je suis en train de classer mes archives, ce qui est un boulot, tu peux demander à mon amie ici présente, qui est quelque peu envahissant. D'ailleurs, je pense que un de ces quatre, je vais venir avec mes archives Radio Béton et vous allez être surpris de voir des choses que vous ignoriez.
Parle-nous donc Archives de la Zone Mondiale, c'est d'abord un label, hein.
Ouais, c'est un label.
C'est plutôt un label.
Qui gère, en fait, tout le fonds de catalogue des Berrues, pour commencer, et de pas mal de groupes importants de cette époque. Faut bien compter, comme dirait.
Et qui essaie de casser le marché du collector sans ressortant des albums vinyles.
Tout à fait.
Qui était épuisé.
Je suis pas toujours dans ces démarches-là, moi, personnellement, parce que je trouve que
t'es toujours patron de Crash Disc?
Oui, mais c'est pas Crash actuellement, il est en coma prolongé. Ça dort. Le jour où j'en aurai besoin, peut-être que je lancerai. Mais objectivement, actuellement, je pense que ça sert pas à grand chose de faire un label. Déjà parce que maintenant la musique, elle se fait directement de personne à personne à travers le net, et puis que je pense qu'il y a plus du tout le même enjeu au niveau de la musique qu'il pouvait y avoir au siècle dernier, pour dire les choses simplement. La musique, elle a arrêté mais disons, elle est beaucoup moins porteuse de sens et en particulier d'esprit politique. Alors que c'est quand même un peu ça qui m'intéressait dans la musique, moi. Bon, par ailleurs, je fais toujours partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Contre-Culture, basé à Paris, et qui organise des concerts de soutien une fois par mois, donc depuis juste maintenant environ 35 ans, oui, mondo. Et il y a toujours un sens à faire de la musique en proposant un autre mode de pensée et une autre vision du monde. Mais en même temps, à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de ce qui se passe autour de nous, si tu veux, il y a un côté un peu insignifiant. Et j'avoue que et le côté collector et le côté posture de plein de gens de la scène est absolument agaçant. Bon, moi, ça me fatigue gravement, quoi. Mais bon, il y a quand même encore des gens, heureusement, qui vivent ça comme une passion et puis qui s'arrêtent pas qu'à l'œuvre ou à la posture. De toute façon, que pour citer un ami que j'aime beaucoup, qui est donc Chester, un dessinateur, qui disait « la posture mène à l'imposture ». Voilà.
Eh ben merci Marsu. Hein. Et donc, si vous aimez quand même vous rebaigner un petit peu dans la nostalgie, entre guillemets, de ces groupes qui ont fleuri en France dans les années 80-90, hein, courez chez votre libraire favori ou commandez directement auprès des archives de la zone mondiale Indocile de François Poulain et magnifiquement préfacé par Marsu.
C'est bien bon. Je signale quand même que c'est pas qu'un bouquin de nostalgie dans la mesure où, en fait, bon, après ça, c'est une discussion assez longue pour savoir si ça a un intérêt, mais il y a quand même énormément de ces groupes qui existent toujours, qui sont reformés. Et que ce qui est invraisemblable pour moi, c'est que quand ils se reforment, en plus, il y a des jeunes qui viennent les voir. Ils disent « Oh, cherchez l'erreur ».
En tout cas, un groupe qui ne se reformera pas, et c'est bien ma... Une de mes peines, c'est les Tugs. Hein, et donc, j'ai calé un petit Tugs pour suivre ça, parce que c'était un groupe.
Abracadabra.
Voilà, un groupe angevin qu'on a adoré sur béton et qui ne sait.
Et pas qu'à béton.
Qui ne s'est jamais reformé à pour notre plus grande tristesse.
Si, une d'or, il forme.
C'était Your Kind of Freedom par les Thugs. Mais quelle heure est-il ? C'est l'heure de votre feuilleton radiophonique, pardi.
Vous connaissez la bourboule ? Eh ben, vous avez tort. C'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule parano. Le feuilleton made in béton.
Dans l'épisode précédent, on a appris que Johnny était un pêcheur. Oui, normal avec les fans, les filles, l'alcool et les drogues, tu m'étonnes. Mais ce qui est plus étonnant, et là, écoutez-moi bien, Johnny n'était pas seulement un pratiquant de la luxure et des interdits, mais un adepte du hobby pépère qui consiste à s'asseoir mal installé sur le bord d'une rivière et d'attendre que ça morde. Qui l'eût cru ? Bah personne, je crois. Ils vont devoir sacrément ramer nos supers acteurs pour vous donner envie de les écouter dans ce nouvel épisode.
Le nom du festival, Poisson Perché, c'est une référence au festival Château Perché.
Le festival pluridisciplinaire de musique, d'art visuel et d'art contemporain qui prend place chaque année dans un château différent, mais toujours dans le centre de la France, généralement au mois d'août, 3 jours et accueille environ 200 artistes locaux, internationaux, au style de musique différent, allant de la deep house à la techno.
Putain, Chicken, t'as bouffé Wikipédia ou quoi ?
Non, je me tiens au courant de l'actualité des festivals, quoi, c'est tout.
Eh bien, il se trouve que la première édition du festival Château Perché a eu lieu au château de Chazeron, qui est à 2 pas d'ici. Vous connaissez son histoire, peut-être ?
Je crains d'être obligé de dire non.
Laissez-moi vous la raconter. Il était une fois...
Ah, chouette ! Un conte de fées !
Il était une fois dans un royaume merveilleux, un roi que ses sujets chérissaient tant et plus, car il était d'une bonté sans limite et d'une équité hors pair.
Hors pair de quoi ?
Chicken, ça ne se fait pas d'interrompre un conte de fées !
D'une équité hors pair, disais-je donc. Jamais il ne se fâchait, jamais il ne foutait un coup de pied au cul d'un valet sous prétexte que celui-ci bâillait aux corneilles dans les couloirs au lieu de passer le balai. Enfin bref, c'était un roi vraiment sympa. Et par ailleurs, le père d'une princesse prénommée Aurore. Celle-ci avait hérité de la beauté sans égale de sa mère et du caractère affirmé de son père. Or, il se trouve qu'avec le temps, l'affirmation du caractère en question dériva progressivement avec une forme de virulence qui confina bientôt, au moment de l'adolescence, à la plus extrême farroucherie.
Farroucherie ? Ça existe, ça, comme mot ?
Vous voulez peut-être raconter l'histoire à ma place ?
Non, c'est bon.
Ok, alors je reprends. Le roi tenta un temps de supporter les remarques acerbes que sa progéniture lui adressait sur un ton rien moins qu'amène, à tout moment de la journée et à tout propos, critiquant sans modération la taille de sa barbe, sa façon d'administrer le royaume, ou encore son usage, selon elle, décomplexé, d'une éducation méchamment patriarcale et oppressive. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à lui courir sur le haricot au roi. Alors, ni une ni deux... Réclusion de la gamine au sommet de la plus haute tour du château. Et on n'en parle plus. Aurore y passa un bon bout de temps dans la seule compagnie d'une servante prénommée Gertrude, qui était bien gentille, mais qui n'avait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, inventé l'eau tiède.
Ah bon ? Mais c'est qui alors qui a inventé l'eau tiède ?
Non mais Chicken, c'est pas possible ! Tu vas la boucler à la fin !
Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ce n'est pas Gertrude, qui passait tout son temps à guetter par la fenêtre la venue d'un éventuel libérateur.
N'ayez crainte, maîtresse. Un prince charmant viendra forcément nous secourir sans tarder.
Alors, Gertrude, primo, je t'ai dit 1000 fois de ne pas m'appeler maîtresse, et deuxio, je n'ai pas besoin qu'un prince, charmant ou non, vienne me secourir.
Comment ? Mais quoi ? Vous n'allez pas dépérir dans ce donjon ?
Ah bah sûrement pas. Je vais seulement me casser d'ici, fissa. Pourquoi crois-tu que je tresse ces draps depuis 3 semaines ?
Pour en faire un fil à linge ?
Mais non, enfin, tu es bête comme tes pieds, ma pauvre Gertrude. Pour me faire la belle ?
Sans attendre le prince charmant ?
Le prince charmant, mon cul ? Le mec à supposer qu'il vienne aura chevauché pendant des jours et des jours. Alors je te dis pas comment il va schlinguer le vieux putois en arrivant. En plus, il voudra sûrement m'embrasser. Et comme ça doit être le genre de gus qui a passé toute sa jeunesse à apprendre le maniement des armes au lieu de traîner au Macumba Night pour taper des gonzesses, il doit vraiment être naze au niveau bisous. Donc si c'est pour me faire rouler des pelles de merde par un boutonneux à la laine fétide et passer le reste de ma vie à torcher ses conchiards, merci bien, je préfère me barrer tout de suite. Et justement, la corde est prête, alors je vais l'accrocher bien solidement et voilà, à moi la liberté.
Tandis que la princesse Aurore fixait l'extrémité de sa corde artisanale au pied de son lit à l'aide d'un nœud de bouline qu'un marin au long cours n'aurait pas renié, le hasard voulut que le prince Godefroy arrive à proximité du château.
Je crois que nous y sommes, mon brave couillard.
C'est bouillard, maître.
Ah oui, autant pour moi, je n'y ferai jamais. Je crois que nous y sommes, mon brave couillard. Courons sans tarder délivrer cette pauvre princesse.
Est-ce que ça ne serait pas plus prudent d'explorer les lieux avant de se lancer de manière intempestive?
Mais qu'est-ce que tu es froussard, mon pauvre couillard? Lorsqu'une jouvence est en détresse, il n'y a pas à hésiter. Tu le saurais si tu étais comme moi, un preux chevalier. Mais tu n'es qu'un gueux, comme ton père l'était, comme ton fils le sera, et comme ton grand-père l'était, et comme ton petit-fils le sera, et comme ton arrière-grand-père...
Oui, si bon, hein. Sauf votre respect, je crois que j'ai bien compris le gué.
Pas une minute à perdre, dans ce cas.
Et sans plus attendre, le prince Godefroy se précipita vers le donjon, où la princesse Aurore était retenue prisonnière, suivie à une allure bien plus modérée par son fidèle couillard.
Mais si bouillard, putain! C'est quand même pas dur à retenir! Au bout d'un moment, ça devient vexant!
Pendant ce temps, au sommet de la plus haute tour, la princesse Aurore était sur le point de lancer sa corde de drap par la fenêtre.
Bon, Gertrude, tu viens ou tu viens pas? Moi, j'y vais en tout cas.
Mais non! Mais si on n'attend pas le prince charmant, c'est n'importe quoi! D'habitude, on attend toujours le prince charmant, en dormant pendant des plombes, ou en tissant des tapisseries toutes moches. Ou en chantant près d'un puits, entouré de nains qui vous mettent le derche en loose-dé. En plus, c'est vachement haut, on risque une mauvaise chute.
Oui ben merde, tu fais ce que tu veux, moi je me tiens.
Au même moment, au pied du donjon.
Hola princesse, soyez sans crainte, je viens vous délivrer. Vous n'avez plus rien à... Ouf! Mais bon sang, qui c'est qui jette du linge par la fenêtre? Vous êtes débile ou quoi? Je l'ai pris en pleine tronche, ça fait super mal.
Pars-toi de là, du gland, tu gênes ma descente.
Ah bah oui, d'accord, parfait. Bonjour l'accueil.
Bonjour l'accueil. Je t'ai rien demandé, mon petit vieux.
Ah non, mais merci bien. C'est cool. Moi, j'ai traversé 300 lieues à dos de cheval. Je me suis farci deux dragons, dont un, je peux vous dire, qu'il était trop balèze et qu'il avait deux têtes. Et que quand on coupe une, elle repousse aussi sec avant que tu n'aies le temps de couper l'autre. Sans parler de la forêt enchantée avec des elfes hideux qui te balancent leur crotte de nez, des sorcières dégueulasses qui... Mais ne m'écoute même pas, cette... Oh ! Hé, où est-ce que vous allez comme ça ?
Salut, moi c'est Aurore.
Enchanté, Bouillard.
C'est ton canasson, celui-là, Couillard ?
Oui.
Parfait, donc je prends l'autre. Et si tu veux bien me mettre sur le chemin de la ville la plus proche, ce serait cool.
Ah oui, mais l'autre, c'est celui du prince.
Et alors, selon toute vraisemblance, ton prince va prendre une bonne bassine d'huile bouillante sur la gueule.
Mais bon sang, c'est qui balance de l'huile bouillante par la fenêtre? Vous êtes crétin ou quoi? Ça brûle vachement.
Donc je ne pense pas qu'il ait besoin de son cheval. On y va?
On y va.
La princesse Aurore chevaucha fougueusement jusqu'au...
Ok, d'accord. Alors, Georges, excuse-moi, elle est passionnante ton histoire. Tu racontes super bien et tout. Mais est-ce qu'à un moment, on va finir par parler du festival? Parce que là, tu vois, nous, on est venus pour ça, si tu veux. Donc les histoires de rois qui séquestrent leurs filles, de princes qui se font ébouillanter, c'est très bien. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi le rapport avec le festival?
Ah mais c'est parce que justement, j'allais y venir.
Eh bien viens-y un peu plus vite si ça te dérange pas. Hein, le prêtre, t'es d'accord avec moi ou pas? Le prêtre. Mais il est où le prêtre?
Je crois qu'il est parti au water. À mon avis, le birlou, il commence à faire son effet là.
Water? Mais quel water?
Ben je sais pas, moi je l'ai vu partir par là en se tenant le ventre à deux mains.
Oh mon dieu, non. Pas les water! Pas les water!
La bourboule parano. Le feuilleton, mais in béton.
Et voilà, c'était le 17e épisode de La Bourboule Parano, votre feuilleton radiophonique. Pour connaître la suite, je vous rappelle que l'ensemble des épisodes de la saison 1 est disponible sur le site de podcast de votre radio préférée, podcast-radiobéton.com. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais mon pote Michou Sardel m'a dit qu'une saison 2 était même en cours de préparation. Mais qui est Michou Sardel? Ah, c'est sur cette nouvelle note de suspense que s'achève cette émission de la 4e saison de Dépoche sous les yeux. Merci aux différents intervenants, l'association Samedi On Lit, merci à Marsu, merci aux chroniqueuses et aux chroniqueurs. Et merci à Véro pour la technique. Pour les inconditionnels, cette émission sera rediffusée mardi 29 avril à 18h. Pour les plus connectés, retrouvez l'intégralité de l'émission sur votre site de podcast. Et pour vous les fidèles, on se retrouve le 31 mai d'un nouveau haut lieu de la culture tourangelle dont je ne sais malheureusement pas le nom parce que on adore le suspense ici. Et d'ici là, allez chez vos libraires préférés, allez dans vos bibliothèques, allez où vous voulez, mais lisez.
We'll be right back.
Des poches sous les yeux, l'émission.
Ciao.